Le temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture, une émission que nous avons placée cette semaine sous le signe de la mémoire, que ce soit pour la retrouver ou pas, avec deux auteurs qui travaillent sur la mémoire, si je puis dire, Enki Bilal et Jean-Marie Laclaftine. Bonjour Jean-Marie Laclaftine.
Bonjour.
Bonjour Enki Bilal.
Bonjour.
Alors, vous publiez, Enki, le deuxième tome de votre série Bug chez Casterman. Alors, on est dans le futur, comme souvent chez vous. Mark Zuckerberg a 57 ans. Les GAFA, ou les GAFAM, comme on doit dire maintenant, sont plus puissants que les États, mais bien embarrassés, car un gigantesque bug a dénumérisé toute la planète et réduit en petits fragments la vie très high technologique, confortable que nous nous sommes construits. L'internet ne fonctionne plus, les mémoires de nos smartphones non plus. Les contrôles aux frontières n'opèrent plus, les avions se crashent puisque évidemment tout ce qui est numérique est déficient, défectueux. Du coup, explosion des mafias, suicide en rafale d'adolescents incapables de résister au sevrage forcé de réseaux sociaux, sans compter les fautes d'orthographe d'une humanité privée de correcteurs automatiques. Dans cet univers chaotique, vous imaginez un homme qui se trouve investi, lui, de pratiquement toute la mémoire du monde, comme s'il était lui-même un internet géant, ce qui fait qu'il va se retrouver évidemment pourchassé par toutes ces mafias, tous ces états, qui veulent mettre la main sur ce savoir. Alors, ce tome 2 vous voit mettre en scène la traque de Cobb par à peu près toutes les organisations du monde, celles qu'on connaissait et d'autres que vous inventez, néo-communistes, féministes,
oui.
Par exemple.
Parce que quand un bug d'une telle ampleur arrive, tout est de nouveau sur la table. Toutes les idées peuvent surgir. Et effectivement, il y a une structure intellectuelle qui se met en place et qui veut ressusciter Marx en disant, voilà, on a failli au XXe siècle, oui, on peut réussir au XXIe.
Voilà, c'est une nouvelle chance pour le marxisme.
Et effectivement, le contrôle est pris par des femmes. Oui. En même temps qu'en Russie, le tsarisme revient par une femme, et aux États-Unis...
Oui, c'est un album très très féministe. On sent que
une fin extrêmement féministe.
Voilà,
une fin très très.
Voilà, mais je ne dévoile rien d'autre. En tout cas, pour le lecteur, ben, l'enquête aussi se poursuit. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Qu'est-ce que c'est que cette tache bleue qui apparaît sur le visage du héros qui semble être lié à la mémoire? Avant de savoir d'ailleurs si la mémoire a une couleur, Enki Bilal, je voudrais que vous nous éclairiez sur le titre. Bug, on le traduit habituellement par un problème. Mais en anglais, ça veut dire aussi « bestiole ». La mémoire est organique pour vous, Enki Bilal ?
Elle est organique forcément, puisque déjà notre cerveau, c'est lui qui la manipule, qui la stocke, qui la gère. Donc elle naît dans l'organique, dans l'organisme humain. Voilà. Là, dans l'album, dans ce concept de bug... Il y a le bug informatique, qui est un crash, une anomalie, c'est technique, c'est purement technique. Et puis il y a le bug, cette petite bestiole qui mesure à peine 1 centimètre et qui est entrée dans le corps de Hobb, à son insu, parce qu'il revient de Mars, faut le rappeler, a hérité de tout ce qui a disparu. Et très vite, on commence à le comprendre dans le deuxième volet, que cette bestiole minuscule qui est dans son corps et qui se balade et qui le met en danger lorsqu'on cherche on veut l'extraire, cette bestiole est en fin de compte une espèce de disque dur suprême, sublime, qui a hérité de tout ce qui a disparu.
Animal, un disque dur animal.
C'est très hybride, puisque c'est à la fois haute technologie, organique, c'est un alien sophistiqué.
Voilà, hybride, un mot
plus sophistiqué que celui de Ridley Scott.
Voilà, et hybride, un mot qui n'étonnera pas les lecteurs d'Enki Bilal. Voilà, le grand prêtre de l'hybridité. Jean-Marie Laclaftine, autre travail sur la mémoire avec une amie de la famille que vous publiez chez Gallimard. C'est un livre qui se tresse, qui se file autour du souvenir de votre sœur Annie, emportée tragiquement par une vague le 1er novembre 1968, tout près de Biarritz, en Anglette, sous vos yeux. Drame dont vous n'aviez jamais parlé, les membres de votre famille non plus. Comme vous le dites aussi poétiquement que cruellement, il ne fait pas bon être mort chez nous, nous sommes très forts en effacement, une famille de gomme. Ce silence sur la mort d'Annie va si loin qu'un jour, avisant la photo de la jeune fille posée sur un meuble, quelqu'un questionne évidemment la famille et votre frère répond « Une amie de la famille ». D'où le titre de ce livre qui est déclenché par ce souvenir, qui est déclenché aussi par votre propre fille, Jean-Marie Laclaftine, qui un jour vous parlait et qui décide d'écrire, elle, une lettre à cette tante qu'elle n'a pas connue, où on lit cette phrase « L'océan n'a recraché que ton corps et déjà tu n'étais plus là. Et sur la plage, les cris d'une mère en épouvante, l'hallucination de tes frères et amis pour te sauver. Ce jour-là, où ils sont tous morts un peu avec toi. » C'est une lettre du 22 septembre 2013. Vous allez, vous, à la recherche de cette part morte de vous-même, dans un très beau livre qui est une tentative de faire renaître par-delà ce que vous appelez le trou de silence, Annie. Cette tentative de la faire renaître s'opère par les mots, alors que vous écrivez pourtant « La parole mémorielle est une autre forme d'ensevelissement, de déformation, de destruction progressive. Les mots, pas plus que le silence, ne peuvent rien contre la mort. » Et pourtant, votre livre semble plaider pour le contraire, même se construire malgré tout.
Oui, c'est vrai que c'est paradoxal, mais je crois que la littérature permet de recréer une autre réalité, c'est-à-dire de permettre une ouverture sur ce que la mort a tenté de, ou la perte, ont tenté de boucher, d'obstruer. Et quand j'écris ce livre, c'est un livre de vie, je n'écris pas, et c'est pour ça qu'il a pris la forme d'une enquête racontée au jour le jour, parce que je ne voulais pas graver une stèle pour ma sœur, je voulais la faire revivre dans les mots, bien qu'elle soit morte à jamais. Ça, je ne pense pas que les mots puissent la faire revivre, non. C'est une illusion, mais ils peuvent faire revivre autre chose en nous et créer de la beauté, de la gaieté aussi, de la joie. Et c'est assez surprenant de voir que de cet épisode tragique dans la vie de la famille est née autre chose. Par exemple, si ma sœur n'était pas morte dans ces circonstances terribles, je ne serais pas devenu ce que je suis, je ne serais pas écrivain. Il y a des tas de choses qui ne seraient pas advenues. C'est-à-dire que de quelque chose, d'un moins, naît un plus. Bon, c'est très évangélique. Hein. Si le grain ne meurt, il faut que le grain meure pour que l'épi advienne. Mais c'est ça, la littérature, c'est ça. C'est pas une tentative de résurrection, c'est la création d'autre chose, d'un autre monde, d'autres émotions.
Et on parlait d'hybridité avec Enki Bilal, c'est aussi un livre au fond hybride parce qu'il est, j'allais dire, constellé, je prends cette image, de photos en fait, d'Annie en fait, que vous avez, qui s'entrelacent avec, avec les mots.
Parce que vous parliez de la mémoire, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui avec Enki. La mémoire, quand j'ai commencé à écrire ce livre, quand le projet de ce livre s'est imposé à moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je sais encore de ma sœur? Elle est morte il y a 50 ans, j'ai tout fait pour effacer ce souvenir, ma famille aussi, c'était tellement douloureux que on a tout fait pour l'oublier, qu'est-ce qui me reste d'elle? J'ai eu un moment de panique, parce que je me penchais au bord de ce puits noir de la mémoire, et je n'avais que des souvenirs totalement parcellaires, dont je me suis d'ailleurs aperçu au fur et à mesure de cette enquête que j'ai fait sur elle et sur nous, qu'ils étaient fallacieux souvent, ils étaient reconstruits, la mémoire. Elle n'engrange pas des souvenirs qu'elle garderait intacts dans un coffre-fort. C'est une romancière. Elle prend les souvenirs, elle les déforme, elle les triture, elle les éjecte, elle les réinjecte. Donc, tout ce qui me restait de ma sœur, dans le fond, c'était des photos. Parce que ça, les photos, on ne pouvait pas les effacer. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu aussi à ce qu'elle soit présente, enfin certaines photos dans le livre, parce que c'est à partir de là que ça s'est reconstruit, que j'ai reconstruit une histoire de ma sœur et une histoire de notre amour.
D'ailleurs, Enki Bilal, je me souviens d'une conversation qu'on avait eue au moment du sommeil du monstre hein, en 1998, qui était votre travail sur la guerre de Yougoslavie, mais à votre façon, vous étiez aussi lancé... comme Jean-Marie Laclaftine, c'est 50 ans après, vous aviez aussi mis un certain temps avant de vous pencher sur la reconstruction peut-être de cette mémoire, de votre mémoire. Vous êtes d'accord avec Jean-Marie Laclaftine quand il dit que tout est reconstruit, parfois fallacieux d'ailleurs, les souvenirs sont trompeurs?
Absolument, et surtout que, alors là on est dans l'intime, dans la mémoire individuelle, et donc il est d'autant plus difficile de vivre avec. C'est effectivement troublant qu'au bout de tant de temps, il y ait cette espèce de maturation, je ne sais pas comment c'est venu, mais à un moment donné il fallait le sortir. Parce qu'on vit avec ça pendant des années. Ça doit être une image terrible. Et cette mémoire-là, c'est la mémoire des hommes. C'est la mémoire quotidienne des hommes. Enfin, chacun a ses drames, ses points comme ça, qui sont des points douloureux avec lesquels on vit. Ma démarche, elle est beaucoup plus globale. Mes mémoires sont toujours des mémoires mondiales, globales.
Enfin, sur la Yougoslavie, je parlais du sommet du monde, c'était quand même là, enfin, le pays où j'avais passé
une partie de votre
enfance.
Je suis entré dans la peau d'un des orphelins, etc., qui était, mais c'est une façon de traiter avec un léger décalage, à chaud, le drame de l'éclatement de ce pays.
Mais pourquoi vous aviez attendu aussi longtemps?
J'ai pas attendu
moins
si longtemps
que
ça. Non, bien sûr, moi c'était quelques années simplement. Ouais. On m'avait proposé pas mal de bon, évidemment en tant que dessinateur des Nouvel Obs par exemple, m'avait proposé d'aller m'envoyer à Yougoslavie pour traiter de manière tout à fait libre, carte blanche, l'actualité de cette guerre. J'ai hésité très peu de temps et j'ai finalement dit non parce que je savais que le traitement d'un tel sujet personnellement devait passer par quelque chose de plus personnel, plus fantasmé vraisemblablement. Donc ce temps, ce décalage de quelques années, c'était pour trouver cette voie. Et la voie, c'était de projeter la Yougoslavie en train d'éclater dans un futur proche et de lui donner un sens plus global. Encore une fois, global, donc universel, parce que quelque part, pour moi, l'éclatement de la Yougoslavie, c'était comme une espèce de laboratoire que le cynisme européen, américain, tous les cynismes
ont laissé
pourrir, se développer, etc. C'est quelque chose qu'on aurait pu arrêter, voilà.
Jean-Marie Laclaftine, avez-vous une explication de ce délai qui vous en parlez un peu évidemment dans le livre, mais qui a été nécessaire à la mise en écriture de cette mémoire, finalement 50 ans pour se pencher sur ce que vous appelez le puits noir.
Je pense qu'il fallait d'abord que j'attende que mes parents soient morts. La difficulté, le blocage, il venait de là, sans doute, c'est qu'on ne pouvait pas voir dans les yeux de nos parents une douleur aussi grande et que c'était impossible d'aborder le sujet. Donc, je me le suis pas formulé comme ça, c'est-à-dire que, mais il se trouve qu'une fois que mes parents sont morts, j'ai commencé à penser à ce livre. Et je voulais qu'il soit enclos entre ces deux dates, puisque le 50e anniversaire arrivait, l'événement s'est produit le 1er novembre 68, et je suis retourné pour la première fois sur les lieux avec mes frères. Et
que
avec,
vous racontez, c'est la fin du, c'est la,
voilà, avec
la
les
fin
protagonistes, du le 1er novembre 2018, 50 ans plus tard.
Ce qui est étonnant, je dis quand même, on s'est rencontrés la première fois.
Oui, vous connaissez, c'est ça.
Non, on s'est rencontrés à Sarajevo. Ouais. Alors, on parlait de l'éclatement de la Yougoslavie. Et on s'est rencontrés à Sarajevo, où on était dans une lutte solidaire avec le centre culturel André Malraux, Francis Bueb. On se battait pour la culture dans ce pays qui était totalement dévasté par les bombardements bosno-serbes, la folie de Karadzic, etc. Donc, on s'est rencontrés là et la mémoire globale dont je parle, qui inclut l'ex-Yougoslavie, etc. Et Jean-Marie était là avec sa propre mémoire, cette histoire-là.
Ouais,
il la portait et ne sortait pas encore. Donc c'est, la mémoire, c'est toujours quelque chose, c'est des poupées russes en fait.
Quand on pense à la mémoire et qu'on convoque justement l'écriture, les auteurs, moi je ne peux pas m'empêcher de penser au tyran Pisistrate qui, au VIe siècle, a fixé les vers d'Homère. Jusqu'alors, c'était de la tradition orale. Et puis, on a aujourd'hui ces textes-là, c'est parce qu'ils ont été fixés par l'écriture. Avant, c'était la bouche des aèdes et puis les oreilles de ceux qui étaient là pour l'écouter. Il fallait être là. Est-ce que, quand vous travaillez sur la mémoire, vous pensez à cette dimension de fixation? Au fond, en fixant les choses, ça ne sera pas oublié.
Pour ma part, justement, la mémoire, elle n'est jamais fixe. C'est un mouvement. On parlait de... Enki disait, c'est un animal, enfin, c'est une bête. Je la vis vraiment comme ça. C'est-à-dire, et le livre, je l'ai écrit comme ça, c'est-à-dire en ouvrant la cage, et la bête est sortie, mais elle est très difficile à suivre. Et elle va un peu n'importe où, et elle suit un chemin erratique, qui a un côté assez drôle, d'ailleurs, parce que je raconte, par exemple, tous les souvenirs que je croyais certains, à l'épreuve de la vérification, ils s'avèrent... biaisé, faux, parfois complètement faux. Et ça, la mémoire, même maintenant que j'ai fait tout ce travail d'enquête, je reçois énormément de courriers de gens qui parfois ont été des protagonistes de cette histoire. Et en les écoutant, je me rends compte que ce que j'ai écrit dans ce livre, il y a des choses fausses, là encore. Pourtant, j'étais persuadé de les avoir vérifiées.
Donc elle est infixable, c'est ce que vous nous dites, la bestiole va trop vite.
Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est la vie, c'est la vie. La vie est là, et tant que la vie est là, il n'y a rien de fixe, tout bouge.
Est-ce que vous, Enki Bilal, vous partagez aussi cette idée que la mémoire est infixable, ou est-ce que vous travaillez quand même pour la bâtir finalement, pour fixer ces briques de passé qui sinon peut-être
partiraient en sable. On essaye de la convoquer, on se concentre et puis elle est là parce qu'elle fait partie, elle constitue le cerveau en partie. Il y a ces choses-là. Mmh. Alors il y a des zones d'ombre, il y a des choses qui sont expurgées, il y a des choses qui sont abrasées.
Vous reconstituez après souvent. Mais quand vous travaillez.
La mémoire, par exemple, sur l'ex-Yougoslavie qui éclate, le fait de projeter dans le futur, c'est une mémoire du futur. Mmh. C'est-à-dire que c'est envoyer un jeu de miroir entre ce qui peut devenir et ce qui est en même temps la révélation de ce qui est arrivé.
Donc prendre une distance, au fond.
Voilà,
c'est un peu l'idée.
Mais par exemple, dans Bug, la mémoire, je ne pensais pas du tout traiter de la mémoire. Lorsque j'ai pris Bug, j'ai pris cette espèce d'accident qui tout d'un coup balaye tout, il n'y a plus rien. Mais en fin de compte, on est en plein dans l'histoire de la perte de la mémoire. Parce que, au bout de 20 ans, ou même déjà maintenant, les dégâts commencent à être faramineux. Le fait de stocker dans des fichiers sa propre mémoire, c'est déjà une forme de démission. On met de côté, on se dit c'est bon, je le garde. Imaginez que ça disparaisse. Un bug, c'est en fin de compte, c'est la fin de la mémoire. Et ça, c'est terrible. Donc je me retrouve à traiter du sujet de la perte de la mémoire. C'est pour ça que les vieux qui ont encore un peu de mémoire naturelle, qui n'ont pas Alzheimer, ils sont un peu les protagonistes héroïques de Bug, de mon histoire. Ils savent conduire des voitures anciennes, ils savent piloter les vieux avions. Les jeunes, ils ne savent pas piloter les vieux avions. Ils se laissent piloter par le numérique des nouveaux avions. Donc là, c'est au cœur du jeu. Donc il y a cette mémoire-là, qui est la grande mémoire humaine, collective, globale, qui a disparu. Et donc on reste avec sa mémoire, on reste avec Jean-Marie. Mmh. Et moi je vais rester avec ma propre petite mémoire.
Mmh. Jean-Marie Laclafty.
Même au niveau historique, puisque Enki souvent traite d'un niveau collectif et social, historique, on voit bien que l'histoire est toujours contestable. Il y a une façon de voir la Révolution française, par exemple, qui se modifie au fil des années, des décennies, des siècles. On n'a plus du tout la même vision de la Révolution. Là, on parlait de la Yougoslavie, la bataille du Champ des Merles, qui est un nœud central dans la mémoire des Serbes et des autres peuples des Balkans. Et, cette bataille, elle est interprétée, réinterpréter, falsifier. Les historiens disent toujours que les faits, ça, ils sont incontestables. En effet, il y a des faits qui sont incontestables, mais autour des faits, et c'est là que tout est passionnant et passionné, c'est l'interprétation qu'on a de ces faits et tout ce qui se passe autour et qui est dans le flou, dans l'incertitude. Mais la vie, elle est là.
Mais on peut aller même plus loin dans l'interprétation et la mémoire. Perdre la mémoire, c'est ce qu'il y a de pire pour une société. Et actuellement, moi, je pense qu'on est en train de la perdre en partie avec cet outil qui est extraordinaire, hein, qui est le numérique, mais qui nous rend suffisamment addicts pour enlever une forme de vigilance. Et on perd déjà énormément de choses. Par exemple, le XXe siècle, j'ai presque l'impression qu'il va pas en rester grand-chose.
Pourquoi vous dites ça? Pourquoi sur le XXe siècle, il resterait rien?
Par exemple, non, j'étais sidéré il y a pas très longtemps d'entendre un jeune ne pas savoir ce qu'était la Shoah. C'est quand même assez surprenant. Alors, qui a failli? L'école, l'éducation des parents. Et c'est parce que simplement, il faut prendre en compte que on est totalement addict à un point tel que finalement, on n'a pas, comme dirait.
C'est drôle parce qu'on sent chez vous toujours l'angoisse du recommencement, au fond. Mémoire oubliée dit possibilité d'un recommencement de l'atroce. Parce qu'au fond, si vous placez vos histoires dans le futur.
Je veux que Marx revienne avec des bons résultats.
Oui, c'est vrai. Vous corrigez, voilà. L'histoire se corrige. Dernière question à tous les deux. Est-ce que justement le fait que vous fassiez des livres, et derrière le livre, certes, il y a une histoire, il y a des mots, mais il y a un objet, il y a un objet livre. Hein, ils sont là devant moi, couverture blanche pour Gallimard, couverture plus chatoyante, plus colorée, plus illustrée.
Des images,
chez vous, mais ce sont des objets livres. Est-ce que le travail que vous faites est aussi un travail sur l'importance de ces objets qui recueillent la mémoire dans ce monde qui s'oublie? L'objet livre.
Oui, encore une fois, pour moi, ce n'est pas un recueil, c'est pas un vase dans lequel on verserait un liquide ou des faits. C'est un trait d'union. Un livre, pour moi, c'est quelque chose qui circule matériellement, mais qui circule aussi.
C'est pour ça que je parlais d'un objet, voilà.
Oui. Mais c'est un objet qui n'est pas seulement physique. Quand on parle d'un livre, c'est une vraie présence et une présence qui, de façon presque magique, peut passer d'un individu à l'autre, d'un esprit à l'autre, d'une âme à l'autre.
Vous ne dites pas, voilà, il n'y a pas l'idée d'un contenant. D'un objet physiquement défini, parfait, comme disait Umberto Eco, et qui contient quand même ses souvenirs sur Annie. Au fond, elle est quand même, je vais pas dire qu'elle est toute là, mais elle est beaucoup là pour ceux qui ne la connaissaient pas. Elle n'est que là, en tout cas. Pour moi qui ne la connaissais pas, elle n'est que là.
Oui, bien sûr. Mais une fois que vous avez lu le livre, elle n'est pas seulement là. Elle est aussi en vous, dans les émotions que vous avez ressenties, dans vos souvenirs de lecture. Et moi, je suis pas du tout fétichiste des livres. Finalement, l'objet matériel m'importe très peu.
Et vous alors, Enki, qui en plus est place peintre aussi, donc la dimension physique, les matières, la peinture...
Mais je ne m'étais pas vraiment posé la question, mais ce que vous venez de dire, cher Christophe, me plaît beaucoup, cette idée que finalement, ce livre de Jean-Marie Laclavetine, par exemple, où il n'y a pas une image, il n'y a pas de couverture. Moi, il y a des images, donc l'image
elles
de
sont
la
à l'intérieur. Elles sont à l'intérieur.
Voilà, mais l'image de la couverture peut déjà induire quelque chose, embarquer quelque part. Là, le livre roman, par exemple, le livre sans... Aujourd'hui, je pense qu'il a cette valeur-là aussi, d'objet, qui renferme quelque chose, qui appartient à celui qui l'a écrit. Pourquoi aujourd'hui? Parce que simplement, le livre, je pense que tout le monde le sait, est en danger. La lecture, l'acte de lire est en danger.
C'est enfin, disons qu'on lit beaucoup, mais pas forcément des
exactement.
Romans ou des essais.
Mais, c'est la différence, c'est malheureusement criant. Donc, je pense que plus que jamais, le livre, il faut se sentir fétichiser, il faut le sacraliser, c'est précieux. Voilà.
Et il faut se battre. Et il faut se battre. J'ai exagéré parce que moi-même, je vis au milieu des livres. Ouais. Et cette présence physique des livres dans les bibliothèques, qui s'entassent partout, c'est extrêmement chaleureux.
Quand même.
Imagine les bibliothèques de demain, il n'y aura pas plus un livre, tout sera numérisé. Tout sera numérisé, on pourrait dire déjà.
Oh, je ne suis pas sûr.
Le livre existe encore bien.
La VOD, tu veux dire, on dit, voilà, de vous acheter un DVD, c'est ringard, n'achetez pas de DVD. Et le jour où il y a le bug.
Mais un DVD, on peut pas, on est obligé d'avoir la machine pour le mettre dedans. Alors que le livre, on a besoin des yeux et de mains. Seulement. On continue avec vous, Enki Bilal et Jean-Marie Laclavetine. On écoute votre choix musical. Enki, vous avez choisi la Gnossienne 3 de Statea de Murkoff et Wagner.
Alors, Vanessa Wagner. Ouais. Vanessa Wagner, qui est une pianiste classique, mais une pianiste de très grande envergure. Alors, c'est un morceau de Satie. Alors, moi, je suis pas forcément un fan de Satie, je trouve ça agréable. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Murkoff, qui est un génie de l'électronique, et Vanessa Wagner ont imbriqué,
hybridifié.
Et moi, je veux dire,
sa majesté hybride.
J'ai eu la chance de me produire une vingtaine de fois avec Murkoff sur scène. Avec Eric Truffat aussi, à partir de mes dessins, mes peintures, etc. Je faisais du VJing. Et eux.
VJing, c'est-à-dire DJing vidéo.
Vidéo, voilà. Et Murkoff, Truffat et Mahu, un très grand percussionniste, jouaient sur scène. Et c'était un grand moment.
On écoute.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio. Thank you.
Gnossienne 3, Murkoff et Wagner.
Vanessa
le disque
Wagner.
S'appelle Stater. Oui, oui, voilà.
C'est ce qu'on va croire que c'est Richard. Oui, oui, coup, ça fout tout en l'air.
Vanessa Wagner, vous nous avez expliqué, Enki Bilal, les raisons de ce choix. En fait, c'est presque du Bilal en musique, c'est-à-dire une narration finalement reconnaissable, perturbée. Et on
oui,
entend
mais
même
je
ne
sais pas faire
en
musique. Voilà. C'est pour ça. J'utilise des outils que ouais. Je maîtrise à peu près. Mais oui, j'aime bien cette idée ouais. de revisiter, de voilà.
Bah vous l'avez
ça
fait
aussi,
sur Shakespeare.
C'est de la mémoire exactement. Aussi. Ça. On va exactement. Chercher dans la mémoire des sons d'un compositeur des temps plus ou moins anciens. On va lui ramener un air, un souffle de modernité. Et puis voilà, ça veut dire que ça ne meurt pas.
Parce que ce qui est intéressant, c'est que chez vous, Enki Bilal, c'est que la mémoire revient aussi beaucoup sous la forme de la littérature ou d'écho littéraire. Dans Julia et Rome, vous imaginiez que la nature réapprenait aux hommes le texte de Roméo et Juliette. Georges Perec apparaît très souvent chez vous. Je crois que vous l'aviez même dans votre atelier, en fait. Hein,
oui, j'avais fait son portrait. Donc, voilà. Oui.
Et puis, il y en a d'autres. Oui, je me souviens de ça. Remember Perec, voilà, dans vos albums. Vous parlez de la musique, là, vous peignez, vous dessinez en musique.
Oui, ouais. Oui, vraiment.
Ouais. C'est ce genre
alors,
de
ce
musique.
Ce genre de musique, ouais. Absolument. Mmh. Alors, puis beaucoup d'autres. Alors, ça peut être plus électronique, ça peut être que classique aussi.
Mmh. Vous avez besoin de ça pour.
Ah oui, vraiment.
Qu'est-ce que ça fait?
Je ne sais pas. Si ça n'est pas là, alors si ça n'est pas là, c'est parce que ça s'arrête à un moment donné la musique, même quand on la programme, et que je ne le sens pas, c'est que la musique a fait son œuvre, m'a transmis un élan, et je suis dans cet élan et je m'en rends pas compte. Et à ce moment-là, c'est les pompiers qui passent en bas qui me réveillent. Mais la musique c'est très très important, vraiment.
Et vous, Jean-Marie Laclaftine, la musique aussi, est-ce que
elle a été très importante en fait pour moi. Et depuis que j'écris, je n'ai coûte presque plus de musique. J'en écoute
même avant,
quand
même. De vous mettre
en écrivant, par exemple, je suis incapable d'écrire en écoutant de la musique parce que ça me happe, ça me capte de façon trop violente. Si j'écoute de la musique, je peux rien faire d'autre.
Mais moi non plus. Mais entendre la musique, c'est pas pareil. Ouais. L'accepter comme accompagnement. Ouais. Bien sûr, quand on se met en situation d'écouter, faut faire le vide.
Donc c'est entendre. Mais vous entendez de la musique quand vous peignez.
Elle m'accompagne, je l'oublie. Voilà. Ouais. Mais bon, chacun fonctionne.
Oui, bien sûr.
Alors Bug 2 chez Casterman. Il y en aura combien d'ailleurs de bugs? 3, 4? Je ne sais pas encore.
Il y en aura
6, 10. On se dit que ça pourrait se prolonger.
C'est très étonnant parce que juste une petite parenthèse sur le fait que j'adapte en ce moment avec Dan Franck. On travaille sur l'adaptation de bugs pour une série pour France Télévisions internationale. Parce que le sujet est international, il n'est pas francophone.
À la mémoire, oui.
Donc, le fait de travailler sur un thème que je développe par ailleurs en bande dessinée, de travailler pour une série filmée, ça m'emmène dans des zones qui ne sont pas prévues. Donc, c'est deux.
Donc, il y en aura peut-être 15, en fait.
Il pourrait y en avoir, mais c'est très différent. Les deux écritures sont très, très différentes.
Je raconte pour les auditrices et les auditeurs de France Culture qui n'ont pas encore lu Bug 1 et ceux qui ont lu Bug 1 qui vont découvrir Bug 2. C'est toujours la même histoire, ce crash généralisé mémoriel. Tout ce qui est numérique ne fonctionne plus. Nos téléphones, nos mémoires téléphoniques n'opèrent plus. Les correcteurs d'orthographe n'opèrent plus. Donc tout est truffé de fautes d'orthographe. Les systèmes, les ascenseurs, les avions aussi équipés. Alors les vieux modèles d'avions fonctionnent. Mais tout ce qui est numérique.
Les sous-marins nucléaires. Voilà. Tout est dans un danger pour nous.
Et donc tout ce confort finalement high-tech dans lequel l'homme du 21e siècle s'était endormi, au fond, est totalement perturbé. Et vous imaginez qu'un homme, donc qui s'appelle Hobb, découvre qu'il est investi de toute cette mémoire du monde qui a disparu. Donc il est capable de retrouver un code pour reprogrammer un ascenseur, par exemple, remettre. Alors c'est pareil, médicalement aussi, puisque tous les implants ne fonctionnent plus, donc il y a des risques mortels pour les.
Et ça commence. Le transhumanisme, récemment, j'ai lu un papier dans Le Monde sur un Britannique, un Anglais, qui s'était implanté une sorte de logiciel de boussole qui lui indiquait en permanence où était le Nord. C'est-à-dire, dès qu'il se tournait vers le Nord, il y avait une petite décharge électrique qui lui indiquait ça. Et il vit avec ça en disant simplement qu'il trouve un équilibre et qu'il est beaucoup plus à l'aise. dans la foule, dans l'espace, il se situe. Enfin, c'est très
il perd
étrange.
Jamais le nord, c'est quand même
c'est le cas de le dire.
Un avantage. Et,
non, mais c'est, voilà. donc c'est comme ça, ça peut paraître assez folklorique, mais c'est, il y a des.
Dans votre livre, il perdrait le nord, puisqu'évidemment, ça ne fonctionnerait plus.
Oui, puis, absolument. Et puis surtout, en 2040, les implants sont beaucoup plus significatifs, plus importants et auront des conséquences beaucoup plus grandes.
Donc cet album, hein, donc Bug 2, donc la suite de Bug 1, on suit évidemment, il est traqué, votre personnage.
C'est une infusion encore. Hein, ouais. Les deux premiers volumes sont une infusion. Dans le troisième, ça va partir.
Une infusion, c'est vrai.
On infuse dans cette situation.
J'imagine une tisane, pas
oui,
du tout.
Pas, c'est un peu
c'est
ça.
Beaucoup plus rythmé qu'une tisane, je le dis
non,
aussi.
Non, non, je pense que c'est... je dirais que la thématique infuse, voilà.
Oui,
voilà.
Très bien. En tout cas, c'est une enquête, c'est une traque, puisque à la fois, donc, le lecteur ne sait pas pourquoi cet homme se retrouve investi de toute cette mémoire globale. Il voit une tache bleue, on va en parler avec vous, on va s'exercer.
Et puis la fille de cet homme est enlevée.
Oui. Et cette tache bleue, on en parlera parce que je vais vous demander de commenter quelques images, Enki Bilal, pour nous faire percevoir ce que, évidemment, on ne peut pas voir.
C'est très radiophonique.
À la radio. Voilà, exactement. Donc cet homme est poursuivi par toutes les mafias du monde, les États aussi qui veulent récupérer, au fond, tout ce savoir disparu. Et puis il y a sa fille aussi qui entre en jeu.
Bah, qui est kidnappé, évidemment, monnaie d'échange, etc. C'est relativement classique. Hein. C'est un livre très différent de ceux que j'ai fait avant, hein, parce qu'il est beaucoup moins spectaculaire, il est beaucoup moins sur la... Il est moins spectaculaire, volontairement, parce que c'est le récit c'est le récit qui nous mène, et c'est pas. On est en 2040, mais c'est en fait on est en 2019, légèrement décalé. Hein. Il n'y a pas de volonté de créer un univers futuriste. Voilà.
Non, mais en fait, vous reprenez par exemple une mosquée derrière Notre-Dame.
En 2040, moi, je vois bien une mosquée dans Paris, une très grande mosquée. Voilà. Ça ne paraîtrait pas du tout incongru.
Il y a des plateformes, sorte de building qui poussent sur la mer avec de la végétation aussi, donc.
C'est plausible,
très bien.
C'est déjà plausible.
Il n'y a plus de G7, mais il y a le G-Web 6, dans lequel siège Mark Zuckerberg et le transhumaniste, donc Ray Kurzweil, hein, qui est employé, grand inventeur, chercheur.
Le grand Manitou actuel.
Voilà, du transhumanisme. Voilà, qui veut abolir la mort, qui a 97 ans. Et puis c'est un monde.
En 2041.
Alors, en 2041. Oui, puisque Zuckerberg a une cinquantaine d'années. Et puis, alors vous vous amusez comme un petit fou, Enki Bilal, parce que évidemment, comme il n'y a plus de selfies possibles, je me tourne vers Jean-Marie Laclaftine, eh bien, on augmente la production de miroirs de poche pour les addicts du selfie. Alors, on rit beaucoup, on rit jaune, hein, parce que, évidemment, ça nous renvoie aussi à la façon dont on se fie à cette technologie qui est devenue la nôtre et à laquelle, vous le disiez, on confie notre mémoire. Alors, je voulais vous demander, Enki Bilal, parce que quand on regarde, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais vous êtes né en ex-Yougoslavie, donc dans un pays qui n'existe plus aujourd'hui. Vous avez toujours joué avec la mémoire dans votre œuvre. Il y avait un spécialiste mondial de l'investigation mémoriel qui avait des violents maux de tête dans l'un de vos livres. Je pense aussi à La Femme Piège, où cette fois Gilles avait la faculté d'effacer certains éléments de sa mémoire grâce à des pilules abrasives. Et je me suis dit que j'allais vous demander quand est-ce que vous en aurez fini avec ce thème de la mémoire, ou plutôt, enfin moi je souhaite pas que vous en ayez fini avec ce thème-là, mais pourquoi ça vous obsède tellement encore? Est-ce que c'est parce que vous êtes arrivé de ce pays qui a volé en éclats?
Je pense que ça entre en ligne de compte, c'est évident. Mais c'est parce que je pense qu'on est on chaque pas que l'on effectue sur une route, on ajoute un élément de mémoire. C'est-à-dire qu'on passe notre vie à engranger des éléments et il y a un tri qui se fait. Voilà. Et je pense que le rôle de l'artiste, c'est de montrer ce que peut-être les autres ne voient pas. Donc sa propre mémoire, sa vision du monde à travers sa propre mémoire, parce que c'est délicat de parler de ça, parce que ça part dans tous les sens. La mémoire, elle est omniprésente, si on veut bien réfléchir. Elle est omniprésente. Lorsqu'on écrit, on écrit aussi parce que on a été influencé, on a été inspiré, on a subi des émotions fortes par l'écrit des autres. On parlait tout à l'heure des mots, les mots, les verbes. Pourquoi partout le verbe? Pourquoi je fais des citations, etc. Parce que simplement
des citations littéraires,
littéraires.
Parce pourquoi d'ailleurs?
Parce
pourquoi
que simplement,
c'est rare dans la bande dessinée.
Mais c'est mon rapport à la langue française. Il s'est passé de manière très brutale et de manière sublime pour moi. Parce qu'à l'âge de 10 ans, d'apprendre une nouvelle langue, c'est un enjeu pour un enfant. Ça va vite. Hein. Mais quand on tombe amoureux de cette langue et qu'en plus elle devient un élément qui m'a aidé à devenir dessinateur.
La littérature vous a aidé à devenir...
Bien sûr, bien sûr. Et donc voilà, donc je suis conscient de ça.
Je suis conscient.
Oui, parce que j'ai l'impression que, alors j'avais beau aller effectivement très souvent au musée du Louvre quand j'étais gamin, j'allais voir alors de la Croix, Géricault, etc. Ces peintres réalistes, mais un peu Goya. Enfin bon, ça me fascinait grandement. Mais j'étais conscient aussi que quand je lisais des textes, ces textes produisaient des stimuli, une forme de stimuli qui était graphique. C'est-à-dire que les mots m'indiquaient des couleurs, m'indiquaient des atmosphères, des ambiances, produisaient une vision de visage humain, par exemple, des animaux. Et donc tout ça, très souvent, je me prenais à essayer de dessiner ce que les mots m'avaient produit comme imaginaire.
Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Marie Claftine, les mots qui produisent des stimuli graphiques?
Graphique, je ne sais pas, parce que...
des images mentales.
Mais je comprends très bien ce que dit Enki, et c'est très touchant, ce rapport très soudain, violent, avec une nouvelle langue. Ça arrive à 10 ans. Dans mon livre, je dis, je suis né à 15 ans, parce que j'avais 15 ans quand j'ai vécu cet épisode, enfin la mort de ma sœur. Et lui, à 10 ans, il a eu ce choc traumatique, mais aussi cette grande chance de pouvoir vivre une nouvelle réalité à travers de nouveaux mots. Moi, je suis toujours très attiré par les écrivains qui entrent dans la littérature à travers le français, qui n'est pas leur langue maternelle. Je pense à Akira Mizubayashi, par exemple, qui est un japonais qui écrit en français, à Daisiji, chinois, qui écrit en français. Il y en a beaucoup d'autres, même. Et c'est toujours très émouvant, parce que je pense qu'eux, ils ont accès à quelque chose auquel nous, qui sommes nés, avons baigné dans la langue française, nous n'avons pas accès. Et ils ont d'abord une passion aussi pour cette langue que nous avons tendance à perdre, peut-être, enfin pour certains d'entre nous, alors que eux, c'est devenu quelque chose de tout à fait vital.
Vous aviez 9 ans.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Marie. Ouais. Parce que c'est effectivement, on est le sentiment de détenir quelque chose de précieux qu'il faut pas abîmer, qu'on utilise avec beaucoup d'attention, beaucoup de concentration, le sentiment d'y trouver du rythme, de la musique. Moi, je vais surprendre, mais je me demande si je ne préfère pas écrire que dessiner, réellement.
Ouais. Bah, ça viendra peut-être. Enki Bilal, je voudrais qu'on ouvre avec vous ce tome 2, ce livre 2 de Bug, et qu'on se livre un petit exercice, que vous nous racontiez peut-être ces images qui organisent la narration, même si évidemment il y a des mots. Il y a page 7, une image qui me semble être votre façon de représenter la mémoire. Est-ce que vous pouvez nous la décrire?
Je ne lis pas, je parle que de l'image là. Alors, là, effectivement, c'est une image un peu particulière parce que c'est la vision mentale qu'a le personnage principal, Hob. Il est dans un avion, il traverse un ciel tumultueux, sombre, avec des nuages qui se transforment en visage de sa fille, qu'il essaie de retrouver. Donc voilà, ça dit, je dirais, ça. Il y a un texte évidemment qui accompagne cette image, mais qui n'est évidemment pas redondant. Et c'est ça qui est très important dans le.
Oui, il ne faut pas que le texte.
Ah ben non, il faut que les informations soient complémentaires et qu'à la limite.
Et quel est ce texte alors?
Alors le texte, c'est le brouillard est épais et la jauge de carburant dans le rouge. D'un claquement de doigts, je déverrouille le radar et la radio numérique. Mon bug se rappelle à mon souvenir en frétillant quelque part sous ma clavicule gauche.
Ouais, ça c'est le bug, c'est donc la mémoire bestiole.
Voilà, Gemma aussi. Et ça, c'est mieux, se rappelle à mon souvenir, via un messager dit en boucle, Gemma, ma fille à pas, otage d'un groupe mafieux vénitien, m'attendait là où nous deux seuls savons, piège grossier assumé, mais de bonne guerre, car seul le moyen de me faire venir. Voilà, je vais un peu vite. Mais en tout cas, voilà, on est dans... Voilà, c'est un moment où il y a la partie intérieure aussi des personnages qu'il faut décrire. Donc c'est pour ça que pour moi, le texte off est extrêmement important dans tous les livres que je fais. Parce qu'il apporte une autre dimension. Et qui, d'ailleurs, c'est quelque chose qui dérange beaucoup le lecteur traditionnel classique de bande dessinée qui préfère
Pourquoi ça?
Que c'est des codes, c'est des codes qui sont un peu. Je joue un peu avec des codes et les codes de la bande dessinée, c'est une forme de simplicité.
Alors, il y a une image aussi qui suit celle-ci où on voit votre héros avec cette tache bleue sur le visage. Alors, est-ce que la mémoire a une couleur et est-ce que cette couleur, c'est le bleu? Enki Bilal.
Alors effectivement, il a une tache, lui, elle est très 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 évidente, elle prend une partie de son visage, mais la jeune femme médecin qui l'accompagne, Junia, elle a également un début de petite tache au-dessus de l'œil gauche. Et dans cet album, d'ailleurs, à la fin de l'album, on comprend le rôle de ces taches bleues.
Mais moi, je pensais que cette mémoire, vous aviez eu l'occasion de le raconter, je pensais que cette couleur de la mémoire, c'était le gris. Parce que quand vous êtes parti de Yougoslavie, vous avez raconté qu'il y a une sorte de couleur qui vous poursuivait. Cette couleur, c'est une sorte de gris. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus?
C'est très difficile parce que j'ai essayé. Non, c'est très compliqué ça. Parce que... Mais c'est quand même un gris bleu. Hein. C'était un gris bleu. Non, c'est quelque chose qui m'a accompagné longtemps dans mon enfance et mon adolescence. Et même après, c'est revenu par... des fractions de secondes. Je ne sais pas si Jean-Marie a connu ce genre de truc. On a le sentiment, il y a quelque chose qui apparaît dans votre cerveau, une image abstraite, mais il y a quelque chose qui est vivant, comme organique et qui bouge. Et à chaque fois, je dis, je vais savoir ce que c'est. Je suis sur le point de trouver ce que c'est, et jamais je ne trouve.
Mais c'est une couleur. Comment peut-on dire qu'une couleur vous poursuivait? Comment en aviez-vous conscience? Comment ça se manifestait?
Ah ben c'était pour faire parler des journaux, pour que vous m'en parliez quelques années après.
Poursuivi par une couleur, on quitte son pays natal.
Je ne lis pas forcément les choses à ce départ, je ne sais pas. Mais voilà, c'est pour ça que je demande à Jean-Marie, parce qu'on a tous parfois ce sentiment qu'il y a quelque chose qui arrive, alors que ce soit abstrait ou pas, ou un visage, et on se dit... Je sais ce que c'est, je vais le trouver, et on ne trouve pas. Et plus le temps passe, moins on trouve, et c'est terminé, jamais je ne trouverai. Voilà.
Il se trouve que ce livre-là, je l'ai écrit, j'ai commencé à l'écrire parce que j'étais obsédé par une image, qui était une image de rêve. Je voyais une femme dans une robe blanche sans manches, qui était de l'autre côté d'une place. Moi, j'étais en train de boire une bière, et à un moment, elle se penche vers un gamin, un petit gitan qui est là. Elle lui donne sans doute une pièce, le gamin détale dans une rue adjacente. Et la femme me fixe, je pense la connaître, je ne sais pas qui c'est, elle est trop loin. Et une seconde après, le gamin est là devant moi avec un bouquet de fleurs blanches. Et à ce moment-là, je prends le bouquet, je regarde de l'autre côté de la place, la femme a disparu. Et je me rends compte que cette femme, c'était ma mère. En interrogeant cette image qui m'a obsédé pendant des semaines, je me suis rendu compte qu'en fait, cette femme n'est pas ma mère, parce que ma mère n'a jamais porté cette robe blanche, et que cette robe blanche, je la connaissais, et je l'ai retrouvée sur le corps de ma sœur.
Voilà. Et la photo,
dans le livre. Ouais.
C'est magnifique, c'est dans le livre, cette séquence. Ouais. Hein.
Alors, Jean-Marie Laclaftine, on poursuit avec vous, avec cette ami de la famille, titre trompeur totalement, puisque c'est un livre qui est consacré à votre sœur. On en parle tout de suite. On écoute votre choix musical. Vous avez choisi Paco Ibanez, Todo en ti fue naufragio.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. El río anuda al mar su lamento obstinado. Sobre tu corazón llueven frías corolas. Oh sentina de escombros, feroz cueva de náufragos. En ti se acumularon las guerras y los vuelos. De ti alzaron las alas los pájaros del canto, abandonado como los muelles en el alba. Es la hora de partir, oh abandonado. Es la hora de partir, oh abandonado. Te lo tragaste como la lejanía.
Todo en ti fue naufragio de Paco Ibanez et le choix de Jean-Marie Laclaftine qui publie chez Gallimard Une amie de la famille. On est avec lui, avec Enki Bilal qui publie Bug, livre 2 chez Casterman. Pourquoi ce choix musical, Jean-Marie Laclaftine?
Avant tout pour la langue espagnole, parce que ma sœur était passionnée par la langue espagnole, elle était passionnée par les poètes espagnol et sud-américain. Cette chanson, elle n'a pas pu l'entendre parce que Paco Ibáñez a eu un succès après 68 et je suis sûr qu'elle l'aurait aimé. J'avais envie de, non pas de choisir une chanson qu'elle avait aimée de son vivant, mais qu'elle aurait pu aimer plus tard. Je suis sûr qu'elle était très sensible à la voix, au chant, et les paroles de cette chanson aussi sont... Il parle de naufrage, il parle de départ, d'abandon, de l'heure de partir, et c'est quelque chose qui me touche énormément. J'adore cette voix.
Et je le rappelle pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu Une amie de la famille, que cette amie de la famille, c'est votre sœur Annie, emportée donc par une vague le 1er novembre 1968, donc il y a 50 ans, à Anglet, près de Biarritz, donc sous vos yeux, drame dont vous n'aviez jamais parlé, les membres de votre famille non plus. Et je citais tout à l'heure cette phrase que vous écrivez, qui me rappelait un peu les pilules abrasives d'Enki Bilal, de ses personnages. Il ne fait pas bon être mort chez nous, nous sommes très forts en effacement. Une famille de gomme. Bah, cet effacement, vous avez décidé de l'effacer, effacer oui. L'effacement, en racontant à la façon d'une enquête, eh bien, j'allais dire le personnage, parce que pour moi, c'est un personnage, je ne l'ai pas connu, je la découvre dans ce livre. Donc, cette jeune femme qui, donc, est emportée. Alors, en plus, je parlais de tragique tout à l'heure, même. Il y a la notion d'ironie tragique, souvent, qu'on convoque. Dans un endroit qui s'appelle la chambre d'amour, elle est avec son amoureux, et lui survivra, elle non, et vous partez à la recherche de ce que on pourrait appeler cette part morte de vous-même dans ce très beau livre, dont vous nous expliquez que c'est pas du tout un tombeau, comme on le dit parfois en littérature, pour cette sœur qui n'est plus là. C'est plutôt le contraire.
C'est vraiment un champ de vie. J'avais envie de lui offrir ça, de la retrouver et de la découvrir aussi, parce que je l'ai découverte en faisant cette enquête. J'ai trouvé dans des correspondances, j'ai trouvé des tas d'éléments qui m'ont permis de reconstruire cette image qui s'était effacée. Et ça a été très touchant. Et depuis, je rencontre donc des gens qui l'ont rencontré. Hier, j'étais avec l'un des nageurs, des surfeurs qui sont partis pour tenter de la sauver. Quand on a été emporté par la vague, mon frère et moi avons pu nous accrocher au rocher. Et Gilles et Annie ont été emportés. Et la mer était très mauvaise et des nageurs héroïques, vraiment, sont partis essayer de les sauver. Et j'ai retrouvé, grâce au livre, parce que cet homme a lu le livre et il m'a écrit pour me revoir. Et je l'ai revu hier à Bordeaux, c'était très, très émouvant, bien sûr.
Alors, c'est un livre dont on a l'impression qu'il s'écrit presque contre son auteur. Parce qu'en fait, plusieurs fois, vous le dites, je vous cite Jean-Marie Laclaftine, « J'ai jamais été convaincu par la psychanalyse ni par ses disciples qui sacralisent la parole et lui confèrent des pouvoirs magiques. La parole, l'humanité semble s'être accrochée à cette pauvre bouée entre la secte catholique qui lui a collé une majuscule et des confessionnaux et la clique viennoise qui a prétendu en faire un passe-partout pour entrer chez les gens à toute heure. » Alors ça, c'est pour la religion et la psychanalyse, mais la littérature en prend aussi pour son grade, puisque votre cher Perec, Enki Bilal, vous le citez aussi, mais je me souviens, en disant c'est impossible de dire je me souviens, on peut dire je décide de me souvenir ou j'ai l'impression de me souvenir. Et finalement, ce sont quand même des mots et de la parole, et même la parole de ceux sur lesquels vous enquêtez, que vous rencontrez pour qu'ils vous parlent d'Annie. Donc est-ce que c'est un livre qui s'écrit contre son auteur ?
C'est pas vraiment contre, parce que disons que j'en joue, je m'en amuse aussi, je m'amuse de toutes ces défaillances de la mémoire sur lesquelles que je constate sans arrêt en repartant à la recherche de ma sœur et de ces années-là. Je m'aperçois que tous mes souvenirs ont un bug. Ils sont un peu falsifiés. On les a tellement reconstruits, triturés, cachés et redécouverts qu'ils sont tous sujets à caution. Et donc, je m'en amuse. En même temps, je sais que le travail que je fais là est un travail essentiel pour moi. Je tiens à ce qu'il soit restitué dans tout son côté erratique et comique parfois.
Comique ou ironique, notamment cette photo, parce qu'il y a des photos dans ce livre que vous retrouvez où on voit Annie danser devant un tableau en fait qui était dans la maison qui représente une vague, une vague qui va l'emporter, enfin pas celle-là, mais en tout cas elle est emportée par une vague. Donc il y a
absolument, et ce tableau qui représente une vague, je l'ai toujours vu chez mes parents, et après la mort de ma sœur, ils l'ont installé dans leur chambre. Je l'ai réalisé en écrivant le livre. Je me dis, mais c'est incroyable. Ils ont installé ce tableau en face de leur lit.
Et vous parlez d'une malédiction aussi, puisqu'il y a cette légende, hein, la légende de la chambre d'amour, page 20, puisque qu'au départ, avant Annie et Gilles, il y avait eu des légendaires amoureux emportés par cette vague.
C'est une légende qui est peut-être entretenue par le syndicat d'initiative locale, mais je ne sais pas si elle correspond à une vraie réalité. Mais donc un pauvre basque et une riche héritière s'aimaient d'amour passionné, mais évidemment l'ordre social leur interdisait de convoler, donc ils se réunissaient le soir dans cette grotte de la chambre d'amour au-dessus de à l'endroit où se trouve le phare de Biarritz aujourd'hui. Et un jour, la mère est entrée dans la grotte où ils étaient en train de s'unir et les a emportés.
Est-ce que le travail sur la mémoire, quand on écrit, nous condamne, on parlait peut-être à l'illusion, je crois me souvenir plutôt que je me souviens, ou à la volonté, je décide de me souvenir, mais est-ce que ça, il ne nous condamne pas à l'ironie, justement? Je tombe là sur la... Vous citez l'article de Sud-Ouest hein, qui fait la une le lendemain justement de la mort de votre sœur. La légende de la chambre d'amour devient réalité. Deux fiancés emportés par la mère, la jeune fille succombe d'épuisement. C'est-à-dire cette ironie qui ressurgit, comme le tableau dont vous parliez.
Moi, je ne dirais pas que c'est de l'ironie parce que bon, il se trouve que tous les articles que je cite sont truffés d'erreurs factuelles. C'est incroyable, même quand on les relit. D'abord, ils n'étaient pas fiancés, par exemple. Ils étaient juste amoureux. C'est un détail. Enfin, mais il y a plein de détails comme ça. Mais moi, ça ne provoque pas en moi vraiment, je n'appellerais pas ça de l'ironie, mais l'acceptation d'un doute. C'est-à-dire qu'il y a toute la réalité dont je parle, elle est entachée d'irréalité. Un peu comme les personnages d'Enki qui sont magnifiques, qui sont esthétiquement sublimes et qui pourtant sont rongés par des plaies, des taches, des choses qu'on ne sait pas définir, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais on sent bien qu'il y a Anguille sous roche, il y a quelque chose... Tout n'est pas si net.
Il y a Anguille Souroche dans le physique de vos personnages, Anne Kibila, rongé Jean-Marie Laclaftine.
Oui, ils sont porteurs de leur vie, de leur mémoire, on y est toujours, du temps qui passe, des stigmates du temps, tout ça, ça fait partie de la richesse du parcours de l'humain, cette traversée qui nous est donnée. Et des corps trop lisses, des corps trop parfaits, non. Il faut qu'il y ait de la meurtrissure, il faut qu'il y ait eu de la vie et que ça... porte ces stigmates, ça me paraît évident.
Et moi, pour moi, la littérature, c'est justement la possibilité de ne pas faire un portrait figé de quelqu'un qui est mort, qui a disparu, de ne pas faire une statue en marbre, mais de l'accompagner dans le mouvement et de danser avec elle quand elle danse sur la photo. Les mots permettent ça, de la retrouver dans le mouvement.
Enfin, vous avez dit les mots et vous parlez d'une image pourtant, puisque vous reproduisez des images, des photographies d'Annie dans ce texte. Et vous dites les mots.
Et je dis les mots, oui, parce que...
Pourquoi vous aviez besoin justement d'archiver presque, à l'intérieur même du texte, ces photographies?
Simplement parce qu'au départ, je n'avais que des photos. C'était mes seuls souvenirs d'elle, presque. À part le souvenir de l'accident, qui sont des souvenirs vraiment terribles et qui ne m'ont jamais quitté. Mais sinon, qui était-elle? Je ne pouvais, au début du récit, me raccrocher qu'à des photos. C'est pour ça que je les ai mises dans le livre, parce qu'elles sont très importantes. Mais les photos, elles font naître des mots, comme tout à l'heure, Enki disait l'importance des mots aussi par rapport aux images, les images qui naissent des mots et les mots qui naissent des images.
Je voudrais qu'on vous entende lire un extrait, Jean-Marie Laclaftine, d'une amie de la famille.
La mère était donc mauvaise. Je n'entamerai pas la litanie des « je me souviens », en l'occurrence il faudrait écrire « je crois me souvenir », « il me semble me souvenir », « j'ai envie de me souvenir », « j'ai décidé de me souvenir », puisque la mémoire est la plus effrontée des menteuses. Disons finalement que malgré le vent d'ouest contre lequel il fallait lutter pour avancer ce jour-là, le temps était beau et invitait à la promenade. Nous avons laissé la voiture près du phare. Annie, Gilles, Bernard et moi avons cherché à descendre au plus près des vagues magnifiques, vers ces trous arrondis où l'eau pénètre violemment en produisant des sons de trompe, des séries de mugissements brefs, syncopés, animaux, qui nous attiraient. L'écume ruisselait en contrebas sur la dentelle des rochers avec des froissements de robes qu'on arrache. Le monde rit au monde, aussi est-il en sa jeunesse. Cette phrase de Clément Marot me revient sans doute parce qu'il y avait dans l'air un parfum de renaissance. Nous étions très jeunes et Annie revivait après des années tumultueuses et noires. La relation avec Gilles l'apaisait, je revois notre sœur souriante et gaie, pleine d'entrain, confiante dans l'avenir qui se dessinait pour eux. Tous deux faisaient des études d'espagnol, j'imagine que c'est de là que me sont venus l'amour de cette langue. mon attrait pour García Lorca et le désir d'épater par la suite mes professeurs dans cette discipline. Dominique, plus tard, a eu la même attirance. Voyait-on ce jour-là la chaîne des Pyrénées, la silhouette familière de la rune, posée sur l'horizon comme un ours endormi, je ne sais plus. Nous étions pleins de vie, nous sautions au-dessus des crevasses, rien ne pouvait freiner notre jeunesse.
Merci Jean-Marie Laclaftine, une amie de la famille. Très beau livre sur Annie. Vous mettez d'ailleurs, c'était Pérec, on en parlait tout à l'heure avec Anki Bilal, vous parlez aussi de Calderón et son idée que la vie est un songe. Oui. Il est beaucoup question d'ailleurs de littérature espagnole dans ce livre et même de littérature tout court. Vous avez cette phrase que vous attribuez à Julien Green, « La vie est un roman qui demande décidément à être réécrit ». Alors la vie est un songe ou la vie est un roman, Jean-Marie Laclaftine ?
C'est un peu les deux. Ouais. Pour moi, la vie est un roman, oui. La vie est un roman qu'on écrit sans cesse. Et jamais je n'avais touché cette réalité du doigt autant que... en écrivant ce livre qui n'est pas un roman.
Que vous appelleriez comment ?
Je ne sais pas, c'est un récit, mais je me suis aperçu que si j'ai attendu 50 ans pour écrire ce livre, et si j'ai attendu surtout d'avoir écrit 15 romans avant, et je me suis aperçu qu'en écrivant ce récit où tout est sincère et rien n'est inventé, à part les souvenirs, bien sûr, je me suis servi des armes du romancier, en fait, parce qu'il fallait que j'écrive ce récit de façon à le rendre vivant et à donner envie au lecteur de m'accompagner à la recherche d'Annie.
Alors précisément, Jean-Marie Laclaftine et Anki Bilal, pour terminer cette émission sur la mémoire, je voulais vous interroger sur ce mot que vous venez de prononcer, Jean-Marie Laclaftine, attendu, si j'ai beaucoup attendu pour écrire ce livre. Qu'est-ce que vous attendez l'un et l'autre ? Est-ce qu'il y a un pacte secret que vous faites avec le lecteur ? Parce qu'au fond, Jean-Marie Laclaftine, le lecteur ne connaît pas Annie. Certains de vos lecteurs, ceux qui sont proches de votre famille. Mais qu'est-ce que vous attendez du lecteur auquel vous confiez ces trésors familiaux ? Et vous, Enki, quand vous parlez de la mémoire aussi, de quelque chose qui vous a touché, qu'est-ce que vous attendez d'eux et d'elle ?
Pour moi, la littérature, c'est un partage. C'est-à-dire que c'est ce qui nous relie les uns aux autres. C'est-à-dire que moi, je parle de quelqu'un qui a existé vraiment, mais je n'écris pas pour ma famille. J'écris pour tout le monde. J'écris pour ceux qui n'ont pas connu Annie et qui ne me connaissent pas. Et je sais que la seule larme que j'ai pour rejoindre les autres, ce sont les mots, c'est la littérature. Et Camus disait, l'art, c'est ce qui relie les gens. Enfin, je déforme peut-être un peu la phrase, mais enfin, il disait quelque chose dans cet esprit-là. Moi, c'est ça que j'attends, c'est de trouver quelqu'un à côté de moi dans la lecture.
Et vous, Enki Bilal ?
La forme de mémoire dont je parle dans Bug, c'est je me sens un peu comme un lanceur d'alerte, mais sauf que je n'aime pas l'idée du lanceur d'alerte. Il y a un côté un peu de on cafte, délation. J'aime pas ça du tout. Mais là, le sujet étant largement global, impliquant toute l'humanité, à savoir cette addiction au numérique, soyons vigilants donc pour préserver la mémoire, pour la garder. Soyons vigilants pour garder aussi la mémoire vivante et pas la mémoire vive seulement. Or la mémoire vive, c'est ce qu'on nous impose. On veut garder la mémoire vivante.
Merci Enki Bilal.
Merci.
Merci Jean-Marie Laclaftine. Je rappelle le titre de vos livres. Donc Jean-Marie Laclaftine, une amie de la famille, c'est chez Gallimard. Enki Bilal, Bug, livre 2, c'est chez Casterman. Merci à tous les deux. Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation, Éric Boisset à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster à l'infini, réécouter jusqu'à la fin des temps cette heure sur la mémoire et le travail de la mémoire avec Enki Bilal et Jean-Marie Laclaftine.